BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, bienvenue dans 60 minutes business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée, mais délocalisée aujourd'hui à Lille. Nous sommes très chanceux, émission réalisée à la CCI depuis la vieille bourse. Pendant une heure, nous allons recevoir les acteurs de cette économie lilloise. On va parler de biologie médicale, comment se porte la profession après la pandémie, quelles sont les évolutions que veut le secteur. Nous serons avec Joséphine Pierrard, la directrice de SynLab, et puis un secteur qui a profité de la crise également, mais aussi de l'évolution des mentalités. C'est la seconde main. Nous recevrons Julien Bruit, cofondateur d'Origami Marketplace. Nous serons avec un acteur historique de cette région, Bills de Roux, spécialiste du transport et de la logistique. Jimmy Bills, son patron, est avec nous, nous fait l'honneur d'être avec nous dans 15 minutes, tout comme Jimmy Dakin, qui s'est servi de son expérience personnelle pour créer son réseau de crèches Optimome, des secteurs qui recrutent énormément et qui ont remédié eux-mêmes au problème. On en parlera dans un petit quart d'heure. Et puis on parlera aussi du recrutement dans le bâtiment avec Laurent Parra tout à l'heure, qui nous parlera d'apprentissage. Et on fera un focus en fin d'émission avec Lorraine sur le textile. C'est 60 minutes business, c'est parti. Et on commence par le journal. Et cette situation en Chine, la Chine qui vient d'annoncer un nouveau record de cas de Covid, davantage qu'en avril quand Shanghai avait été confiné. 31 500 cas hier, dont l'écrasante majorité est asymptomatique, mais la Chine procède à des tests de masse. Sébastien Lebelzig, vous êtes à Pékin. La situation est très tendue dans certaines régions, notamment dans cette usine Foxconn de Zhangzhou. C'est le plus gros site de production d'iPhone au monde. L'endroit est confiné. Plusieurs milliers d'ouvriers du site ont stoppé le travail pour s'opposer à leurs conditions de travail. Sébastien.
Oui, deuxième jour d'émeute à Zhangzhou. L'usine Foxconn a été en partie occupée la nuit dernière par plusieurs milliers de manifestants qui demandent le versement de primes exceptionnelles. Ce matin, Foxconn a expliqué qu'une erreur informatique est à l'origine du non-paiement des salaires. Le sous-traitant d'Apple présente ses excuses, mais la colère gronde toujours alors que le site est bouclé en ce moment par les forces de l'ordre. La police a donné l'assaut tôt ce matin et sur des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut voir des policiers frapper des manifestants avec leurs matraques. Des images d'une rare violence ici en Chine. Les 200 000 ouvriers doivent vivre sur place depuis plusieurs mois pour éviter tout risque de contamination au Covid. Ils décrivent une situation chaotique et disent vouloir rentrer chez eux. Fin octobre, déjà plusieurs milliers d'entre eux s'étaient échappés, fuyant ces contraintes sanitaires. La production d'iPhone pourrait chuter du coup de 30% cette année. Et puis les autorités viennent d'annoncer que la moitié de cette ville de Zhangzhou, soit 6 millions d'habitants, est placée en confinement, officiellement pour lutter contre la pandémie, mais évidemment, il s'agit surtout de mettre un terme à ces manifestations.
Merci pour ce point de situation, Sébastien Lebelzig. On revient en France. Luc Rémont, le nouveau PDG d'EDF, qui a été nommé hier en Conseil des ministres, fait son premier déplacement aujourd'hui sur le chantier symbolique de Flamanville. Luc Rémont qui va devoir prouver que cette EPR peut démarrer dans un an. Et la pression n'a jamais été aussi forte. C'est une enquête de Mathieu Pechberti.
L'EPR de Flamanville risque de manquer cruellement l'année prochaine. EDF prépare l'hiver 2023-2024 qui s'annonce déjà difficile en termes de production nucléaire. L'uranium sera chargé dans la cuve de l'EPR en juin prochain, mais il ne démarrera pas avant début 2024 et ne produira qu'à pleine puissance que mi-2024. Après 10 ans de déboire, l'EPR de Flamanville va encore peser lourd. Car EDF aura encore 7 réacteurs à l'arrêt en 2023, des maintenances qui vont chacune durer au moins 3 mois afin de prolonger l'exploitation des centrales de 10 ans, sans oublier la fin des contrôles de l'ensemble du parc pour détecter d'éventuels problèmes de corrosion. Ces maintenances longues vont s'accélérer en 2024 alors que 11 réacteurs arriveront à 40 ans d'âge. EDF doit donner dans les mois à venir sa prévision de production d'électricité pour 2024. L'ensemble du marché et le gestionnaire du réseau électrique attendent cet objectif avec impatience. Il donnera une première indication sur le risque de pénurie pour l'hiver prochain.
On reste dans l'énergie avec cette nouvelle réunion des ministres européens de l'énergie aujourd'hui à Bruxelles. Elle s'annonce animée parce que la Commission propose un mécanisme pour empêcher les prix du gaz de dépasser un plafond fixé à 275 euros par mégawatt-heure. C'est un prix largement au-dessus des prix actuels, si bien que plusieurs pays, et l'Espagne en particulier, tirent à boulets rouges sur cette mesure. La France aussi la critique, l'estimant inopérante, insuffisante et hors sujet. Deux gros contrats dans le secteur de l'énergie verte. Ce matin, à noter, d'abord Voltalia qui annonce le plus gros contrat d'approvisionnement de long terme en électricité renouvelable jamais signé en France entre un producteur et une entreprise. Voltalia qui va approvisionner Renault en électricité solaire. Sur 15 ans, ça représente environ 500 MWh par an, soit la moitié des besoins de Renault pour ses activités industrielles en 2027. Et puis l'autre contrat, c'est Engie, le français qui va approvisionner les data centers de Google avec de l'électricité issue d'un projet éolien offshore en Écosse. Contrat de fourniture de 100 MW sur 12 ans dont le bon temps n'a pas été divulgué. Voilà pour le journal. On fait tout de suite un point à Euronext. Et quelle est la tendance, Étienne Brack, aujourd'hui ?
Tendance positive, CAC 40 qui retrouvait même les 6700 points pour la première fois depuis mars dernier, plus 0,7%, troisième séance dans le vert, 6726 points, des marchés qui sont rassurés après les minutes de la Fed, vous savez, c'est le compte-rendu de la dernière réunion, et avec des indices qui laissent à penser que petit à petit, la Fed va commencer à être un peu moins agressive, tout du moins, elle réfléchit à lever le pied et ça plaît au marché. Seulement deux valeurs dans le rouge dans le CAC 40, Thales et Airbus, avec des baisses qui sont très minimes, et puis à l'inverse, ça se passe bien pour Téléperformance, Worldline ou encore Unibail qui gagne plus de 2%. À noter les matières premières qui continuent de reculer avec bien sûr la Chine et la situation qui se dégrade. Moins 0,5% pour le Brent à $84 qui est sur des plus bas depuis le début de l'année. Et puis Rémy Cointreau hors CAC 40 qui perd plus de 2% après avoir publié ses résultats exercice décalé. Situation qui se normalise après deux années exceptionnelles. Le marché qui vend la nouvelle 160 € pour ce titre. Et donc l'indice parisien qui est bien orienté. Plus 0,7%, 6726 points. Le tout avec des volumes particulièrement faible car il n'y a pas de séance aujourd'hui aux États-Unis, demi-séance demain, donc il faut s'attendre à une activité très faible en cette fin de semaine.
Merci beaucoup Étienne Brack pour ce point bourse en direct d'Euronext. Nous sommes donc délocalisés dans ce bâtiment incroyable, cette CCI de Lille à la Vieille Bourse, parce que nous avons beaucoup d'acteurs dans cette région à recevoir, des acteurs qui ont joué un rôle très important ces dernières années, ces années de crise, de pandémie, de crise énergétique. Et nous recevons pour ce premier plateau Joséphine Pierrard, médecin biologiste, directrice générale de Synlab Hauts-de-France. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et à vos côtés, Julien Bruit, cofondateur d'Origami Marketplace. Bonjour Julien.
Bonjour.
Merci d'être avec nous tous les deux. Bon, c'est vrai que de prime abord, vous n'avez pas grand-chose en commun, sauf que les dernières années ont changé votre secteur, ont donné des idées, et c'est ça qui nous intéresse, la résilience des secteurs. Je commence avec vous, Joséphine Pierrard. Synlab, c'est 22 laboratoires de proximité, 300 collaborateurs, 27 biologistes. Il faut savoir quand même que 70% des diagnostics et décisions médicales reposent sur une analyse de biologie. Vu les dernières années qu'on vient de passer, on comprend que c'est un maillon essentiel de la chaîne de soins.
Oui, tout à fait. Donc Synlab Hauts-de-France appartient au réseau de laboratoires Synlab, qui est présent en Europe et au-delà. Nous sommes implantés dans la métropole lilloise, le bassin minier, l'Artois, donc le Nord et le Pas-de-Calais, historiquement, depuis de nombreuses années. On est un acteur local, mais ça s'est beaucoup transformé, effectivement. Donc 350 collaborateurs, 350 environ, avec les biologistes, ils travaillent chaque jour avec différents métiers qui sont représentés. Donc on a évidemment des biologistes qui sont médecins ou pharmaciens de formation, des techniciens de laboratoire, des infirmières, des secrétaires médicales, et après tout un tas de salariés qui ont d'autres fonctions plus transverses, mais qu'on connaît mal. C'est une véritable entreprise avec de la logistique, de l'informatique, de la qualité, et évidemment des ressources humaines, administratives, tout ce qu'on trouve dans une société structurée.
Vous parliez de transformation chez Synlab, ça s'est matérialisé comment ces dernières années, ces derniers mois, ces transformations dans votre entreprise ?
Alors ça s'est matérialisé par une transformation au départ organisationnelle qui était présente même avant la crise sanitaire, parce qu'on a beaucoup parlé de laboratoires dans la crise sanitaire, mais déjà avant nous avions entamé cette transformation. parce que l'implantation est large, avec une organisation en site de prélèvement et en plateau technique. Donc tout ça, ça s'est structuré sur une dizaine d'années, et les métiers ont évolué au fur et à mesure.
Les laboratoires médicaux, on en a entendu parler dernièrement parce qu'il y a eu une grève. Le gouvernement considère un petit peu que les laboratoires ont profité de la crise sanitaire. Ils ont été effectivement très sollicités. Qu'est-ce que vous pensez de ce positionnement dans la société aujourd'hui, et vers quoi doit évoluer leur rôle finalement aujourd'hui?
Alors comme vous le disiez en introduction, les laboratoires font 70% des diagnostics ou aident aux prises en charge des patients chaque jour. Donc on est là pour les patients et pour nos partenaires en santé, les médecins avec lesquels on collabore chaque jour. Donc c'est une place centrale dans la proximité de soins qui a déjà été présente depuis de nombreuses années, mais vers lequel on doit approfondir notre démarche avec une fluidification du parcours de soins, de l'innovation qui est déjà très présente mais qu'on accentue, et la digitalisation.
La digitalisation, évidemment. Ça fait une belle transition vers votre voisin, Julien Bruit, qui est cofondateur d'Origami Marketplace. Ce chiffre m'a beaucoup étonné, mais en même temps, c'est assez logique. 60% des Français achètent au moins régulièrement des biens de seconde main. Près de la moitié d'entre eux ont adopté ce mode de consommation il y a moins de 5 ans. Vous avez fondé justement Origami Marketplace en 2018. Rappelez-nous ce que vous faites réellement.
Alors nous, Origami, on a une mission, c'est d'aider les entreprises à créer leur offre de seconde main, à créer leur place de marché. Il faut savoir que la plupart des stocks qui sont en France sont chez les particuliers, dans les garages, dans les dressings et également dans les buanderies. Et donc nous, on offre aux entreprises la possibilité de créer leur plateforme d'échange entre particuliers. Et on parle d'économie circulaire aussi, parce que pas seulement de seconde main. Et donc on parle de la gestion des retours, comment valoriser les retours, comment moi en tant que distributeur je vais pouvoir valoriser des retours. Et donc nous on propose des plateformes qui vont permettre d'avoir une vision 360 de l'économie.
Pour quel type de clients précisément, et dans quel secteur vous êtes le plus représenté?
Alors en termes de secteur, nous on est vraiment tout secteur de l'économie a besoin de se transformer, a besoin de transformer son économie. Et donc par exemple, dans nos clients, on peut avoir des personnes dans le sport, on peut avoir des personnes qui sont plus dans l'univers du meuble, on peut avoir des personnes qui vont être du service. Vraiment, on est tout secteur, on va accompagner des entreprises vraiment de la conception du produit, donc c'est-à-dire qu'ils vont vendre des produits de première main, jusqu'à la seconde main.
Oui, parce qu'en fait, ça se fait en deux temps. C'est ça la spécificité de votre technologie et finalement qui fait la différence avec une marketplace banale, classique. C'est quoi qui fait la différence avec une marketplace qui travaille aussi sur la seconde main, aussi sur l'économie circulaire?
Donc nous, en fait, on voit l'économie circulaire non pas comme quelque chose qui va être différencié de l'économie habituelle de consommation. On voit ça comme le bras armé qui va permettre aux entreprises d'avoir un nouveau levier de croissance, c'est-à-dire de pouvoir ajouter une nouvelle vie au produit, c'est-à-dire qu'on va intégrer notre solution sur des sites e-commerce déjà existants.
Et vous finalement fabriquez cette deuxième partie et ce recyclage en quelque sorte de n'importe quel produit.
Tout à fait. Donc nous, c'est marrant de parler de recyclage, oui, parce qu'on parle souvent de seconde main. Mais finalement, il n'y a pas de seconde main. On parle plutôt de vie du produit. On peut avoir une première vie, une seconde vie, une troisième vie. Et les vies vont être différentes. La seconde main, c'est une partie des vies. Mais également, la gestion des retours est hyper importante. On voit de plus en plus que la consommation est effrénée.
Oui.
Donc les retours sont effrénés également. Donc il faut pouvoir les valoriser.
Très très rapidement, j'ai envie de vous interroger tous les deux. Je vais commencer par vous, Joséphine Pierrard, sur le recrutement. Vous êtes... Est-ce que vous souffrez de problèmes de recrutement? En tout cas, vous avez l'air de croître, de beaucoup recruter. Où en êtes-vous dans cet aspect des choses chez Synlab?
Alors oui, on souffre des problèmes de recrutement. En santé, c'est très tendu.
Ouais. Il y a une désertion aussi des postes en biologie.
Il y a une désertion, il y a un attrait pour l'hôpital avec tout ce qui est fait par le gouvernement, et c'est très bien pour les professionnels de santé. On doit toujours s'adapter à tout ça pour pouvoir avoir du personnel compétent au poste de travail. Donc on a aussi renforcé notre équipe RH en recrutement,
ouais,
pour être nous performants en recrutement, parce que c'est
mieux communiquer pour peut-être faire partager ce que c'est que le
métier. Oui, alors on partage avec les salariés. Ouais. on met en place parfois de la même de la cooptation. Hein.
Ouais, c'est ça.
On en arrive à ça.
Ouais. Julien Bruit, je vous pose la même question. Vous êtes 20 collaborateurs. C'est une plus petite structure, mais j'imagine que vous avez surtout besoin de développeurs, qui est une denrée tellement rare en ce moment dans notre pays.
Oui, bah tout à fait. Donc on est 20 collaborateurs. Alors faut savoir que notre nombre de collaborateurs a doublé déjà en un an.
Oui.
Effectivement, les développeurs sont une denrée rare, mais je pense aussi que les fonctions support deviennent de plus en plus rares. Il y a aussi une crise des vocations sur pas mal de fonctions. Donc finalement, les développeurs, on a la chance, nous, d'être trois cofondateurs tech, donc on sait parler aux développeurs, mais les fonctions support deviennent de plus en plus rares à trouver.
Et ce qui vous rassemble tous les deux, c'est quand même la quête de sens. On ne fait pas ces métiers par hasard, aussi bien dans la biologie médicale que dans la seconde main, l'économie circulaire. Ce sont des arguments peut-être qui pèsent, Joséphine.
Oui, c'est vrai que les salariés maintenant veulent un projet, se sentir bien dans la société.
Utile à la société.
Utile.
Oui.
On a beaucoup travaillé sur nos valeurs en interne, hein, pour qu'on comprenne ce qu'on est occupé de faire. Ça a beaucoup aidé.
Très bien. Merci beaucoup, Joséphine Pierrard, médecin biologiste, directrice générale de ce SynLab des Hauts-de-France. Merci, Julien Bruit, cofondateur d'Origami Marketplace, d'avoir été avec nous dans
Merci
cette spéciale délocalisation à Lille pour 60 minutes business. Nous allons recevoir dans un instant Jimmy Dakin et Jimmy Bills pour une nouvelle discussion autour de le dynamisme de cette économie lilloise. À tout de suite.
BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Sandra Gandoin.
Et Lorraine Goumeau m'a rejoint. Bonjour Lorraine.
Bonjour.
La suite de 60 minutes business délocalisée à Lille sur cette place du théâtre à la Vieille Bourse, la CCI de Lille qui nous accueille aujourd'hui pour cette émission spéciale consacrée aux acteurs de l'économie lilloise. Et on ne pouvait pas faire cette émission sans Jimmy Bills, président de Bills de Roux. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Bills de Roux, acteur incontournable du transport, de la logistique, une entreprise qui est encore familiale. Vous avez quoi, 110 ans?
Nous venons de fêter nos 111 ans.
Vous êtes beaucoup plus jeune.
Vous avez passé en tout cas nombre de crises, notamment les dernières. La pandémie a été quand même assez difficile à passer. Vous avez dû mettre une grande partie de votre personnel en chômage partiel. J'ai envie de vous demander aujourd'hui tout simplement comment va Bills de Roux en 2022.
Bon, écoutez, l'épisode 2020 effectivement est passé. L'année s'était bien terminée finalement après le déconfinement. 2021 a été une très bonne année. 2022, c'est une année correcte, mais qui est inquiétante hein, sur certains sujets, avec ces problématiques que nous connaissons tous, et la difficulté de pouvoir anticiper les choses, parce que aujourd'hui, rien n'est sûr.
Vous avez modifié peut-être vos activités, les parts de la logistique, la part du transport. Comment ça s'est transformé ces derniers mois? Et même, est-ce que vous envisagez d'autres transformations, justement, au vu des crises qui nous empêchent en ce moment?
Écoutez, les besoins en logistique et transport restent les mêmes. Encore une fois, la difficulté, c'est d'ajuster, effectivement, les ressources par rapport à la demande, aux besoins, et aujourd'hui c'est notre priorité principale, et évidemment d'accompagner nos clients, hein, puisque l'activité reste quand même dynamique, restait dynamique avant la guerre d'Ukraine. Aujourd'hui elle est un peu moins, mais on sent que sitôt la guerre terminée, on le souhaite très vite, on sent que les choses repartiraient très très fort. Donc effectivement, nous préparons en permanence des plans d'action pour être en capacité de répondre en stockage, logistique, en transport, évidemment, le moment venu.
Comment vous gérez cette crise de l'énergie? Parce que vous l'avez dit, effectivement, on attend tous la fin de ce conflit en Ukraine, mais en attendant, les factures d'énergie, les factures de carburant explosent. Comment on fait? Est-ce que on met certains projets entre parenthèses? Comment on gère ça, finalement, au quotidien chez Bills de Roux?
Alors, concernant le carburant, nous avons une chance énorme dans le métier d'avoir un mécanisme de répercussion. Donc, pour le diesel utilisé dans nos camions, nous arrivons à répercuter pas tout, mais une bonne partie de ce surcoût. Par contre, pour les autres postes, électricité, gaz, etc., pour les entrepôts, les bureaux, etc., effectivement, on est face à un gros problème. Hein, les coûts explosent et là, ça devient plus difficile.
Et il y a aussi les crises, les pénuries de recrutement, et c'est là que je vais me tourner vers vous, Jimmy Dakin, parce que vous avez aussi ce genre de problème. Vous êtes fondateur du réseau Optimum. Vous avez fondé ce réseau de micro-crèches. Il y en a une centaine aujourd'hui sur le territoire. Suite à une expérience personnelle, on peut dire que ça a bien pris.
Oui, effectivement. C'est à la naissance de mon fils Paul, il y a 10 ans. Confronté à une liste d'attente dans la commune où j'habitais, qui me donnait 3 ans de délai en fait. Donc on s'est penché sur le domaine des micro-crèches privées. On a regardé, puis je me suis lancé. Donc ça fait un peu prétentieux, mais oui, j'ai fait une crèche pour mon fils. Et puis derrière, on a lancé le réseau. Donc un réseau de franchises où on a aujourd'hui 180 franchisés sur toute la France, y compris dans les dom-toms. Et puis une 120 micro-crèches ouvertes sur toute la France également. Et nous sommes très implantés sur les Hauts-de-France avec plus de 30 micro-crèches.
Bon, on va parler de votre implantation et du recrutement qui vous concerne tous les deux. Lorraine, je vous quitte et je vous laisse faire. Je vais préparer la prochaine interview. À tout de suite.
Oui, vous le disiez. Alors, on est avec deux Jimmy. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, c'est très perturbant. Alors, je vous appelle avec votre nom de famille pour que ce soit bien clair. Jimmy Dakin avec vous. On est dans l'univers des micro-crèches. Vous parliez de votre maillage territorial. Oui. Parlez-nous peut-être des bonnes pratiques qu'on peut retenir du Nord, que peut-être vous appliquez au reste de votre réseau, qui peuvent aussi être applicables à ceux qui gèrent des réseaux et qui nous écoutent.
Alors effectivement, nous, les bonnes pratiques, c'est les valeurs humaines. Vous le savez, les gens du Nord sont plutôt chaleureux, accueillants, et c'est ce qu'on fait au quotidien dans nos micro-crèches, qu'elles soient dans les Hauts-de-France ou ailleurs en France, par le biais de nos professionnels de la petite enfance, qu'on accompagne aussi par des formations, à accueillir chaque jour les enfants dont les parents nous confient, entre guillemets, la prunelle de leurs yeux. Donc il faut faire ça bien. Nous-mêmes parents, on a besoin d'avoir ce côté rassurant quand on laisse son enfant dans une crèche. Donc oui, les valeurs humaines, le côté chaleureux, et puis on travaille aussi sur des axes pédagogiques pour les développements de l'enfant.
On va faire des parallèles entre vos deux secteurs, Jimmy Dakin et Jimmy Bills. Vous avez tous les deux des métiers assez genrés. Vous, Jimmy Bills, évidemment, on pense au monde des chauffeurs, plutôt des hommes. Vous, Jimmy Dakin, on risque d'être un petit peu caricatural, évidemment, aux femmes. Est-ce que, justement, s'adresser à l'autre sexe, c'est une des solutions que vous avez pour pouvoir essayer de pallier les problèmes de recrutement que vous avez chacun dans votre secteur, et les limites sont claires. Mais peut-être, Jimmy Bills, dites-nous.
Écoutez, la féminisation dans le métier a tendance à se développer, effectivement. De plus en plus de femmes conduisent des poids lourds. Chez nous, d'ailleurs, il y a quelques années, nous n'en avions aucune. Et aujourd'hui, nous avons une petite dizaine de femmes conductrices. Donc, effectivement, c'est très positif. Et ça permet, effectivement, d'augmenter nos chances de recruter des conducteurs, puisque c'est un vrai problème aujourd'hui. Et quant à la logistique, on est sur des rapports pas tout à fait équilibré, mais presque, entre les hommes et les femmes, hein, puisque travailler en entrepôt, voilà, c'est possible pour tout le monde.
Et vous, Jimmy Dakin, chez Optimum?
C'est l'exception. Un homme dans une crèche, c'est une exception. Aujourd'hui, c'est un métier qui n'attire pas forcément les hommes. Historiquement, et depuis la nuit des temps, ce sont les femmes qui se sont occupées des enfants. Donc c'est un petit peu ancré, malheureusement, dans l'ADN humain. Non, on lance un cri, d'ailleurs, un appel à tous les hommes. Si les jeunes hommes qui veulent se lancer, il y a des parcours de formation. On commence à avoir des éducateurs de jeunes enfants masculins. Et ça, c'est une bonne chose, parce que ça apporte aussi une diversification des pratiques professionnelles au sein d'une crèche. Ça équilibre un peu les débats, donc effectivement. Mais aujourd'hui, on constate que je crois que sur l'ensemble de notre réseau, on a eu un homme un moment, et c'est tout.
On va continuer à réfléchir aux bonnes idées qui peuvent remonter, évidemment, de patrons et de patronnes comme vous, au niveau du recrutement, mais pas que. On va aller rejoindre Sandra, qui est partie tendre le micro à un autre patron local. On part dans le secteur du BTP. Restez avec nous.
BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Sandra Gandoin. Okay.
Pour
pour ce tour de France BFM Business. On continue à recevoir les acteurs essentiels de cet écosystème lillois. Et je suis avec Laurent Parral, directeur général du CFA BTP des Hauts-de-France. Merci d'être avec nous aujourd'hui, de nous accueillir. Le bâtiment, qui est à la fois un des secteurs essentiels de notre économie, est l'un de ceux qui souffrent le plus des pénuries de recrutement. Et c'est là que vous intervenez finalement, Laurent Parra. Vous formez 2300 apprentis sur le Nord et le Pas-de-Calais. Est-ce qu'on peut dire c'est que votre formation a beaucoup de succès dans cette région?
Oui, nous avons plus 53% de croissance en 3 ans. Et nous formons du CAP au BTS. Et aujourd'hui, il y a une forte demande. Et nous mettons tout en œuvre, bien évidemment, pour attirer nos jeunes sur les métiers du bâtiment.
Alors justement, ces métiers du bâtiment, vous formez à tous les métiers du bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-uns? Quels sont-ils dans les détails?
Alors bien évidemment, tous les métiers du bâtiment, la menuiserie, la maçonnerie, la peinture, l'électricité. Et nous développons des nouvelles activités liées à la transition énergétique, comme les pompes à chaleur, le photovoltaïque.
Vous m'avez dit que vous accueillez depuis 3 ans 800 nouveaux apprentis. Ça veut dire que cette quête de sens que l'on réclame un petit peu dans tous les secteurs, peut-être que les jeunes la trouvent dans le secteur du BTP, dans votre centre de formation. Qu'est-ce qui les amène, qu'est-ce qui les motive, ces jeunes aujourd'hui?
Alors, ce qui les motive, c'est le salaire, parce que dans le bâtiment, on gagne bien sa vie. Puis surtout, ça permet d'avoir un parcours de vie à long terme, si vous voulez. Parce que aujourd'hui, il y a une vraie demande sur le marché du secteur du bâtiment. Et donc, ils peuvent rester très longtemps dans le bâtiment. On peut évoluer.
On fait carrière, en fait, dans le bâtiment. Et on vit bien dans le bâtiment. C'est ce que vous dites.
Exactement. Et le bâtiment s'ouvre aussi aux femmes. Puisque, je veux dire, aujourd'hui, on a 8% de femmes. Malheureusement, c'est pas suffisant. On fait tout notre possible avec nos fédérations du bâtiment, qui est la FEB et la CAPEB, pour pouvoir attirer les femmes sur les métiers du bâtiment.
Alors justement, vous l'avez dit, le bâtiment est en transformation permanente, notamment à cause ou grâce à la transition écologique, à ce qu'on demande aujourd'hui. Peut-être que c'est ça qui va faire augmenter le nombre de femmes dans les formations et plus tard dans le secteur.
Bah, disons qu'il faut rénover énormément de bâtiments aujourd'hui. Et donc, à partir du mois de janvier 2023, par exemple, les passoires thermiques ne pourront plus, être louées aux particuliers. Donc, donc on est obligé vraiment de faire la transition énergétique. Et il y a une vraie dynamique dans ce domaine.
Alors, quel type de transformation, je veux dire en termes de métier, en termes de formation, ça implique pour vous? Qu'est-ce que ça change au quotidien dans un centre de formation de former à des métiers qui peut-être n'existe pas encore aujourd'hui, mais auquel il faut malgré tout penser?
Alors, nous sommes bien évidemment à l'écoute du marché et de nos entreprises. Donc, en fait, on adapte notre offre de formation en fonction des besoins des entreprises. Donc, bien évidemment, par exemple, je vous prends le cas des pompes à chaleur. Là, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'installations de pompes à chaleur. Donc, on a développé des partenariats sur ces dispositifs.
Oui, ce sont les produits qui évoluent en permanence, les techniques et même les formateurs eux-mêmes dans votre centre. Est-ce qu'ils sont régulièrement reformés pour acquérir ces nouvelles techniques?
Alors bien évidemment, nous formons nos formateurs pour qu'ils puissent faire évoluer leurs compétences. C'est jamais suffisant, on fait de notre mieux, mais effectivement, aujourd'hui, nous avons 150 salariés, 80% de formateurs, tous en CDI. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, clairement, il y a un accompagnement pour la montée en compétences.
On l'a dit, on va le redire, hein, parce qu'on a eu un petit bruit extérieur, mais c'est vrai que votre centre de formation fonctionne très bien. Est-ce que les profils des apprentis qui y viennent a changé ces dernières années? Comment est-ce qu'il évolue, ce profil?
Alors nous formons beaucoup de jeunes, entre 15 ans et on va dire jusqu'à 29 ans, mais notre moyenne d'âge c'est 20 ans. Nous avons aujourd'hui 3 grands centres sur l'ex-Nord-Pas-de-Calais et nous venons d'ouvrir un centre à Gravelines et un centre à Maubeuge. Donc en fait on adapte nos centres en fonction encore une fois des besoins des entreprises et on met tout en œuvre avec nos fédérations du bâtiment et nos entreprises pour valoriser les métiers du bâtiment. Puisqu'aujourd'hui c'est plus les métiers d'il y a 20 ans, on ne porte plus des sacs de 50 kilos et ainsi de suite, donc les choses ont bien évolué.
Le BTP n'est pas une voie de garage, c'est ce que vous m'avez dit quand on a discuté un petit peu tout à l'heure et c'est vrai que c'est très important de le dire parce que vous êtes justement implanté sur les sites de développement, par exemple de la ville, les nouveaux bâtiments, des projets très innovants et c'est important de leur dire pour ceux qui vont travailler dessus.
Alors le bâtiment n'est pas une voie de garage bien évidemment et surtout l'apprentissage puisque très longtemps l'apprentissage a été considéré comme une voie de garage, mais aujourd'hui nous avons des bacheliers, même des masters, des gens qui ont des masters qui viennent faire une reconversion dans les métiers du bâtiment et c'est vraiment une source très intéressante pour nous.
Le gouvernement, les aides du gouvernement vous ont aidé, vous l'avez senti ces derniers mois, ces dernières années, ça a contribué à l'attractivité?
Alors bien évidemment, grâce à la prime de 5 000 euros et de 8 000 euros, qui doit en principe s'arrêter à la fin de cette année, mais je crois savoir que le gouvernement réfléchit à une prolongation de cette prime à hauteur de 6 000 euros. On espère bien évidemment que ça continuera, parce que ça aide les entreprises.
800 apprentis supplémentaires en 3 ans, ces 3 dernières années, donc dans ce CFA BTP des Hauts-de-France. Le BTP séduit les jeunes, en particulier les femmes bientôt, on l'espère. Merci beaucoup Laurent Parra d'être venu nous voir, directeur général du CFA BTP des Hauts-de-France. Merci à vous. Et on continue cette émission avec un focus spécial textile et vous, Lorraine Goumeau.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
Micro en main.
On est toujours à Lille, bienvenue à tous si vous nous rejoignez. On va continuer à zoomer sur le tissu industriel et ses acteurs et ses actrices. Nous allons maintenant parler du textile, évidemment ici depuis Lille et pour au nom de toute la région, difficile d'être ici sans en parler. On a 2 invités, Sandra va nous rejoindre dans un instant. Le premier, c'est Olivier Dicatillon. Bonjour Olivier.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes dirigeant d'une entreprise très locale, le Maître de Mester, spécialiste du lin, on va en parler en détail, est également président de l'Union des industries textiles de France. À côté de vous, on a Grégory Marchand. Bonjour Grégory.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes président de filature, de teinturerie de l'Union textile de Tourcoing et de plusieurs entreprises sur lesquelles on va revenir. On va parler d'abord avec vous de la relocalisation. Et ce mot vous énerve un petit peu, parce que avant de parler de relocalisation, on peut parler déjà des gens, des entreprises qui sont toujours là, qui ont toujours été là. Chacun dans votre rôle, parlez-nous de vos entreprises et de leur inscription historique et locale dans le Nord. Peut-être vous d'abord pour démarrer, Olivier.
Alors effectivement, c'est quelque chose qui nous est très cher, c'est de dire n'oublions pas ceux qui ne sont jamais partis, s'il vous plaît, c'est important. Bien sûr que il faut saluer ceux qui ont fait les efforts et qui reviennent et qui reconstruisent des usines et qui relocalisent, mais n'oublions pas ceux qui sont comme nous toujours restés en France. Le Maître de Mester est la 5e société la plus ancienne de France et elle a été créée en 1835. Donc vous voyez, on est une start-up assez ancienne par rapport à ça, parce qu'on est obligé de se renouveler en permanence. Et on est le dernier spécialiste du lin en France. On fait partie d'une coopérative agricole qui s'appelle Natup et qui a souhaité, tout comme nous, recréer une chaîne de valeur 100% française autour du lin, depuis le champ jusqu'au produit fini. Et on a partagé cette envie, cette valeur, et là on a ensemble, le groupe a investi pour recréer une filature de lin. Il n'y avait plus eu de filature de lin en France depuis plus de 20 ans. Et là, ça a été la réalité. Aujourd'hui, on est capable de proposer des tissus 100% tracés, 100% français.
Mais justement, parce qu'effectivement, on a l'impression que dernièrement, il y a un retour du lin dans le textile de façon générale. Quelles sont les propriétés qui font que aujourd'hui, à nouveau, on y fait appel?
Alors le lin, c'est un orgasme écologique, parce qu'il y a toutes les vertus écologiques, ça n'abîme pas les sols, ça consomme peu d'eau, ça utilise peu de chimie, donc ça a toutes les vertus, et c'est 100% recyclable, et la qualité numéro 1 du lin, c'est que c'est une fibre locale. 80% de la production mondiale du lin est française, faut le dire, le répéter. Nous, notre combat, c'est que de ces 80%, il y en a 80% qui partent en Chine et en Inde. Et nous, on est les résistants et on veut que cette chaîne de valeur franco-française continue à exister en France avec toutes les étapes de la chaîne de valeur en France. Et c'est ça notre combat aujourd'hui.
Grégory, vous aussi, un filateur teinturier, 7e génération. Vous fabriquez du fil et vous le teignez. Pas de délocalisation, mais vous avez tout de même une présence à l'international, en Roumanie. Et vous me disiez, ce qui est important, c'est la localisation.
C'est vrai, pour nous, fabriquer local, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc nous sommes filateurs d'origine. Notre famille, on est des petits jeunes à côté par rapport à Olivier, puisque c'était en 1864. mais donc, voilà, au fur et à mesure, on est devenu industriel dans différents types de métiers. Et les métiers, bien sûr, la filature, la teinturerie. Nous avons ouvert en Roumanie dans les années 98 et notre but était de devenir des industriels au service entre autres des retailers qui, européens qui allaient s'installer en Europe centrale. Et donc c'est comme ça qu'on a ouvert cette usine là-bas. Mais toujours en continuant notre métier ici pour justement donner ce service au niveau de la teinture et au niveau de la filature.
Alors, cette demande d'ici, elle vient du consommateur. On l'a observé avec, évidemment, la crise Covid, mais elle a aussi un intérêt pour les retailers avec qui vous travaillez. Vous êtes un peu le maillon entre les deux. L'exigence du consommateur qu'on a vu dans la nourriture s'est portée maintenant sur le textile pro, le textile de la maison, le textile qu'on porte. Olivier, peut-être pour démarrer.
Le consommateur, vous l'avez remarqué depuis des années, même avant le Covid, a eu cette exigence sur tout ce qui était alimentaire. Et en fait, cette exigence, elle a continué tout naturellement, à savoir que le consommateur aujourd'hui, il veut plus qu'on lui raconte d'histoire. Il veut qu'on soit complètement transparent, qu'on ait une traçabilité totale. C'est où est-ce que c'est fait? La localisation est importante. Comment c'est fait? Est-ce qu'on respecte toutes les règles d'un point de vue à la fois sociétal, environnemental? Et aujourd'hui, c'est une exigence que forcément les enseignes, les marques, les distributeurs ont envie et ont à cœur. Et je pense que c'est important pour eux de pouvoir leur répondre et prouver qu'ils jouent le jeu et qu'ils sont complètement transparents par rapport à ça.
Grégory.
Et donc, c'est clair que c'est extrêmement important pour eux. Ils sont directement en lien avec leurs clients. Et ils veulent avancer sur ça. L'exemple concret que nous avons, c'est un exemple un partenariat que nous avons mis en place avec Decathlon. Donc, nous fabriquons du fil qui est fait dans la région ici à Trélon, donc dans la région du Nord, le sud département, et nous le teignons sur la teinturie de Tourcoing. Et nous traversons un autre bâtiment et nous arrivons et nous faisons ces bonnets. Ces bonnets qui sont là, ces bonnets étaient fabriqués au Sri Lanka. Aujourd'hui, dans notre atelier, on fabrique plus de 300 000 bonnets. Donc avec toute une équipe de personnes qui fabriquent à Tourcoing, ici sur la métropole, ce bonnet made in local, made in France, et qui est vendu dans les décathlons. Donc aujourd'hui, c'est un pari, un partenariat, vraiment, parce que en fait, les retailers ont leurs exigences, nous les industriels avons les nôtres, et donc il a fallu apprendre à parler ensemble, à parler, à se comprendre, à comprendre les points extrêmement importants de leur métier et leur partager les nôtres pour réussir à mettre au point ce challenge, et c'est ce que nous avons fait.
Est-ce que c'est un argument, je vous pose la question à tous les deux, chez vos salariés, d'avoir ce genre de politique, de RSE, de relocalisation, de dire aujourd'hui on fait du textile propre? Est-ce que c'est quelque chose qui paye qui pèse dans les arguments?
Je vais faire juste un petit clin d'œil. Les équipes de la Mycotech, je sais que tous les week-ends, elles emmènent leurs enfants, leurs petits-enfants dans le rayon du Décathlon de Neuville-en-Ferrain pour leur dire « Regardez, c'est moi qui l'ai fait, c'est nous qui l'avons fait ». Et donc, une fierté, c'est sûr. Et après, je pense que quand on va rencontrer des vendeurs dans le magasin, ils disent « Mais c'est fait juste à côté de chez nous, c'est génial ». C'est génial. Donc là, il y a certainement encore des grands pas à faire pour cette communication, parce qu'il y a plein d'endroits où ça ne se sait pas, mais néanmoins, ça plaît.
Olivier.
Mais l'important, ça montre que c'est important de communiquer à l'extérieur, mais c'est aussi important de communiquer à l'intérieur de l'entreprise pour que les salariés, justement, soient bien au courant de ce qui se passe. Ça leur donne encore plus de sens, cette fameuse quête de sens dont tout le monde parle, mais qui est bien réelle et bien légitime. Et aujourd'hui, pour recruter, puisque c'est aussi un des enjeux et un des points importants dans l'ensemble de notre filière et d'autres filières d'ailleurs, c'est important de pouvoir mettre en avant ce genre d'argument, parce que voilà, vous rentrez dans une société, vous allez participer à la production de quelque chose de très tangible, de très matériel, et en plus qui a beaucoup de sens parce que c'est fait en France, parce qu'il protège ou crée des emplois en France, et c'est bon pour la planète parce que l'impact environnemental derrière, quand vous utilisez, en plus si c'est des fibres locales, c'est encore mieux, mais une production locale avec notre énergie aujourd'hui qui est une énergie propre en France, eh bien c'est un impact environnemental qui est inégalable et largement le meilleur en Europe et par rapport au reste du monde.
Et si je peux me permettre, je vais vous couper, excusez-moi, mais en fait l'important, c'est que ces produits soient faits d'une manière totalement différente de la manière dont ils sont faits de l'autre côté du monde. Ça veut dire qu'il faut y ramener de la technologie, la technologie au niveau, bien sûr, de la filature, de la technologie au niveau de la teinture, mais aussi dans la conception de ce produit. Parce que ce produit, aujourd'hui, la manière dont on le conçoit, c'est pour qu'il puisse être, bien sûr, avoir sa durabilité, sa première vie, sa deuxième vie, mais jusqu'à aller au moment où on va le recycler. Si le produit est créé de cette manière-là, on va réussir à pouvoir le recycler, à pouvoir le penser. Et entre-temps, on aura mis en place des automatismes pour le fabriquer d'une méthodologie totalement différente de ce qui existe ailleurs dans le monde. Et c'est vraiment ça, c'est des points, c'est oui à la relocalisation, mais la relocalisation différente.
Vous avez quand même un gros chantier de communication, si je peux me permettre, parce que pendant longtemps, la désindustrialisation a été perçue comme un progrès. On enlevait les usines de nos territoires, on rendait le travail des ouvriers, finalement on leur rendait service en supprimant ce type de poste. Comment on fait pour reconstruire une image d'usine propre, d'atelier propre? Peut-être parlez-nous des machines qui aujourd'hui vous permettent qui permettent aux mains de travailler et de produire ce bonnet. Et peut-être vous, Olivier, vous portez une écharpe en lin. Quel est l'outil industriel qui vient supporter, qui vient montrer la technicité et le progrès et la modernité de vos lieux de travail?
Alors, je rebondis juste sur votre question en disant que vous avez un sacré challenge. Oui, c'est un challenge pour l'ensemble de la filière textile et c'est ce qu'on essaye de faire au niveau du syndicat professionnel. C'est la loi AGEC et la notion de traçabilité et d'affichage environnemental, c'est une des réponses. Parce qu'aujourd'hui, quand le consommateur voit que le fabricant ou la marque hésite à être très transparent sur la façon de faire, c'est suspect. Et aujourd'hui, on incite et les gens veulent absolument que ça soit précisé. Donc l'enjeu, il va être facilité par le fait que cette loi va rentrer en application en janvier et il y aura obligation d'afficher les étapes de production, trois d'entre elles en tous les cas, ce qui déjà va donner plus d'infos aux consommateurs. Sur la partie technique, mais là c'est un combat R&D de tous les instants qui doit se faire en interne, suivant les structures. Quand on est chez soi, on le fait en interne, on le fait avec notre écosystème d'experts, que ça soit les pôles de compétitivité, le centre technique. Et après, suivant les structures, dans les groupes et en faisant appel à une intelligence collective. Nous, on croit beaucoup à ça parce qu'aujourd'hui, on n'a pas évoqué le problème, mais il est récurrent, que ça soit sur l'énergie, sur le recrutement ou sur l'automatisation, la robotisation. Je pense qu'on y arrivera plus vite si on s'y met tous ensemble et si toutes les forces vives et toutes les expertises arrivent à faire l'union sacrée ensemble pour pouvoir avancer sur des sujets qui sont des enjeux énormes.
Grégory.
Localement, on a de la chance, on a un écosystème fantastique avec des clubs d'entreprises comme Clubtex, avec le pôle de compétitivité, Eura Materials, on a des universités, on a le CETI qui est là, on a vraiment un ensemble, un réseau génial pour pouvoir justement avancer. Et on a aussi cette chance d'avoir des retailers en local. Et donc, ça veut dire de pouvoir travailler différemment de ce qui a été fait depuis 20 ans, 30 ans. Et aujourd'hui, on a cet avenir en face de nous. Si on arrive à travailler différemment, je pense qu'on arrivera à créer du nouveau business pour demain.
Mais travailler différemment, par exemple, tout à l'heure, vous parliez de teinture. La teinture dans le textile a été énormément montrée du doigt il y a quelques mois, quelques années, pour dire que c'était extrêmement polluant. Comment on travaille justement sur des teintures? Comment on les rend plus vertes? Comment on rend une industrie celle-là verte?
Merci de la question. Je suis teinturier. Aujourd'hui, on a une teinture qui fait, pour ainsi dire, zéro rejet. Parce que ça veut dire qu'on recycle à travers des appareils qu'on a mis en place chez nous. On recycle l'eau qu'on réutilise et on tourne en milieu fermé. Donc aujourd'hui, alors, par contre, vous allez me dire, oui, mais vous utilisez peut-être beaucoup d'électricité et d'énergie. Oui, c'est vrai. Donc c'est très compliqué avec la période qu'on est en train de vivre. Mais aujourd'hui, il y a des solutions qui existent et qui sont améliorables. Aujourd'hui, on parle de la teinture. Il y a d'autres manières demain de mettre du colorant sur les vêtements. Donc on travaille dessus. Moi, j'ai une équipe de 5 ingénieurs qui travaillent sur ces sujets-là et vivent l'avenir.
Et si je peux me permettre sur la teinture, parce qu'on a cette image qui dit le textile est polluant. Oui, le textile fait à l'autre bout de la terre ou fait chez les autres, c'est peut-être le plus polluant. Le textile français, je peux vous dire que c'est le plus propre qui puisse exister aujourd'hui. Nos teinturiers, nos ennoblisseurs ont de telles contraintes, de telles normes que aujourd'hui ils peuvent pas faire un pas de travers par rapport aux normes. Et l'eau qui rentre dans une teinture, quand elle ressort, elle est souvent plus propre que quand elle est rentrée. Donc je pense que là aussi il y a des clichés et il y a des idées reçues sur ce sujet-là. Je peux vous dire que des ennoblisseurs, il y en a plus beaucoup en France, mais il faut bien les protéger, bien les garder, parce que quand on n'aura plus d'ennoblisseurs, on n'aura plus de textiles. Donc c'est important, même s'ils ont cette réputation qui leur colle à la peau.
Olivier, on est obligé de remettre en contexte le chiffre que vous nous avez donné tout à l'heure. 95% des textiles de la maison, des textiles qu'on porte, importés. Donc là, on parle de 5%, et vous dites politique des petits pas, c'est déjà ça 5%?
Je pense que c'est vraiment important de donner la chance à ceux qui ont envie d'y croire. Ça a changé dans les mentalités. On voit qu'au niveau des entreprises petites, grandes, il y a cette envie. Il faut donner cette chance-là. Il ne faut pas être intégriste en disant « Ah ouais, il faut absolument que ça soit 100% made in France ». Non, la moindre amélioration qui est dans ce domaine, ça sera salué et ça sera un petit pas vers plus de made in France. Mais faut pas se leurrer, on n'y arrivera pas en quelques claquements de doigts.
Et faisons notre plan Marshall du textile. Ça veut dire que avec une entente avec nos clients, je parle les retailers, de dire on est prêt à fabriquer plus pour vous à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans. Et si on trouve des engagements, qu'on trouve des solutions, nos amis les banquiers nous suivront tous et on aura sacrément avancé. Mais avec des outils nouveaux, avec des inventions nouvelles.
On est obligé de conclure cette séquence en parlant de recrutement, puisque c'est l'usage à cette heure. Tous les jours, on parle de recrutement avec des patrons, des patronnes qui ont besoin de force vivre, chacun avec vos casquettes respectives. On va les répéter. Olivier Ducatillon, président de l'Union Textile. Vous avez trop d'acronymes. Vous êtes dirigeant de Le Maître de Mestère et puis patron de l'Union des Industries Textiles de France. Vous, Grégory Marchand, pardon, président de l'Union Textile de Tourcoing, mais aussi cofondateur d'Imatech et de la Mycotech en partenariat avec Decathlon. Quels sont, en 2-3 postes clés, les gens dont vous avez besoin, les cerveaux et les mains dont vous avez besoin? Olivier, commençons par vous.
Alors nous, on recherche 2 tisserands, donc je profite là, même pas honteusement, je profite de manière pendiste, on cherche 2 tisserands pour tisser du lin français avec du fil français et pour faire des superbes produits en ameublement, en déco, mais aussi pour le prêt-à-porter. C'est très compliqué et je me permets de dire, voilà, l'entreprise a une lourde responsabilité et a le devoir de faire en sorte que les conditions, que ça soit salarial ou les conditions de travail, soient les meilleures possibles et qu'elles s'améliorent en permanence. Mais je pense que malheureusement, on a aussi trop souvent le cas, ça nous est arrivé la semaine dernière et la semaine d'avant, où on a des gens qui sont sans emploi, qui font des essais et qui restent une journée ou 2 jours et qui s'en vont sans rien nous dire. Et donc c'est pour nous très compliqué de recruter en ce moment. Donc on forme les gens, on demande pas aux gens d'avoir une expérience, on demande d'avoir envie et de savoir travailler avec des règles, un minimum de règles. Mais en tous les cas, les gens chez nous, ils sont bien, puisqu'il y en a beaucoup qui sont là depuis 45 ans, donc vous voyez.
Vous, Grégory?
Je cherche des commerçants européens qui sachent parler l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol. Je cherche bien sûr des filateurs, des gens qui connaissent la filature. Je cherche des teinturiers, je cherche des tricoteurs. Et voilà, je cherche dans aujourd'hui des techniciens pour nous entourer. On a des automatismes, on cherche des automaticiens, des informaticiens. Et tous les jours, il y a des gens qui rentrent chez nous. Et voilà, ce que je veux vraiment faire passer comme message au gouvernement, c'est... Oui, c'est différent aujourd'hui. On a des gens qui arrivent chez nous, qui au bout d'une semaine s'en vont sans nous rappeler, nous donner de... En fait, on dépense beaucoup d'argent...
Une journée, hein. Une semaine, vous nous dites.
Une journée, voilà. On dépense beaucoup d'argent dans la formation. Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose à inventer, que ce soit le crédit impôt formation, qui peut être un test à faire, au moins. Si ça marche pas, eh ben, on l'arrêtera. Mmh. Mais moi, je suis prêt, si on me dit, allons-y, testons cette solution pendant une période d'un an, je trouve ça, ça vaut la peine, et de créer quelque chose de nouveau sur ce sujet-là.
Voilà pour ce focus. Lorraine, merci. Grégory Marchand, merci. Olivier Ducatillon, d'être venu nous voir sur ce plateau, nous avoir accordé votre temps. Merci Lille de nous avoir accueillis, cette CCI magnifique qui a accueilli 60 minutes business et cette matinée dans ces locaux. Demain, nous reviendrons en 60 minutes business à Paris, évidemment. Un petit rendez-vous à noter ce soir sur BFM Business. Emmanuelle Wargon, la présidente de la CRE, la Commission de Régulation de l'Énergie, qui sera l'invitée d'Edwige Chevrillon dans la grande interview. Ce sera à 19h30 sur BFM Business. Et cette émission est à trouver en podcast et en replay. Lorraine, on se voit demain.
À demain.
À demain.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.